S'il vous amoche, vous les amochez. S'il vous tue, vous vous relevez.
Microclimat.
Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Dans le cadre de la semaine Microclimat, organisée autour des alternatives citoyennes sur les enjeux de la COP21, nous avons décidé de dédier une émission aux conséquences de nos modes d'alimentation sur le changement climatique, ainsi qu'aux formes de résistance mises en place par des associations ou des syndicats de paysans. Au niveau mondial, la part de l'alimentation dans le bilan global des émissions de gaz à effet de serre est estimée entre 30 et 50% du total. Partant de ce constat, notre façon de se nourrir et de choisir notre alimentation constitue un des principaux enjeux de la lutte contre le changement climatique. Cependant, ce sujet n'est pas abordé dans le cadre des négociations de la COP21. La modification des modes de consommation et le renouveau de la relation directe entre les producteurs et les consommateurs sont des facteurs décisifs de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l'amélioration de notre santé. Pour cerner les enjeux autour de l'alimentation et du climat, nous sommes allés à Montreuil, au village des alternatives, rencontrer Cyriel, chargé de mission agriculture et alimentation au réseau Action Climat France et qui travaille à promouvoir des solutions pour la mise en place d'une alimentation durable. Nous y avons aussi rencontré Mickaël, de la Confédération Paysanne, qui participe aux différentes luttes menées par son syndicat, ainsi que le collectif contre l'urbanisation du triangle de Gonesse. Nous nous sommes également rendus à Pantin, rencontrer les bénévoles de l'association Le Marché sur l'eau. Bonjour Cyriel, est-ce que tu peux te présenter ?
Bonjour, donc je suis Cyriel, je travaille au réseau Action Climat sur les questions agricoles et alimentaires en lien avec le climat, donc forcément.
Donc nous sommes au village mondial des alternatives à Montreuil. La première question, c'est peut-être de faire un point sur les impacts de l'alimentation sur le climat.
Eh ben, donc notre système alimentaire dans son ensemble a tout un tas d'impacts sur en termes d'émissions de gaz à effet de serre liés à la fabrication des aliments et le type de fabrication forcément va émettre plus ou moins de gaz à effet de serre. Une agriculture de plus industrielle va émettre d'autant plus de gaz à effet de serre. Et ensuite, il y a aussi tout le système de distribution, de transformation des aliments, d'acheminement jusqu'au lieu de distribution qui émet aussi un certain nombre de gaz à effet de serre. Sur la partie production, sans trop rentrer dans les détails, peut-être pour prendre un exemple, par exemple le système de production industrielle de la viande telle qu'on la connaît en France, par exemple, a beaucoup d'impact en termes de gaz à effet de serre, notamment parce qu'on importe d'énormes quantités d'alimentation pour les animaux. Ou alors on la fabrique en France, mais du coup ça a des impacts indirects, c'est-à-dire qu'on va importer les aliments qu'on aurait dû produire en France et pour lesquels on n'a plus la place. Et ces importations génèrent des gaz à effet de serre déjà, mais aussi ce sont souvent des grandes cultures de soja, par exemple pour faire du tourteau de soja, qui elles vont générer d'énormes surfaces de déforestation. Et qui dit déforestation dit fortes émissions de gaz à effet de serre.
D'accord. Au niveau global, l'alimentation représente combien du total des émissions de gaz à effet de serre ? Est-ce qu'on a une idée ?
Oui, y a pas mal de chiffres qui circulent parce qu'effectivement c'est compliqué d'y voir clair dans tous ces chiffres, notamment quand on prend ou pas en compte la déforestation. L'association Grain a fait un calcul à l'échelle internationale et estime à environ 50%. De l'ensemble des émissions anthropiques liées à notre système agricole et alimentaire.
D'accord, donc c'est énorme, c'est le premier poste de loin.
C'est ça, en prenant tout en compte, c'est-à-dire que là, juste avant, je parlais de l'alimentation animale et de tous les effets indirects en termes de gaz à effet de serre seulement, en plus, liés à l'alimentation pour les animaux, mais on n'a pas parlé, par exemple, de tout ce qui est fabrication des engrais de synthèse qui sont comptabilisés en général dans l'industrie et dans la sous-catégorie industrie chimique et qui ne sont en général pas comptabilisés dans l'agriculture. Donc c'est par exemple un chiffre qu'on oublie d'agréger aux gaz à effet de serre liés à notre système agricole et alimentaire.
Alors c'est vrai que quand on regarde les bilans des émissions de gaz à effet de serre, il n'y a jamais de poste alimentation, il y a un poste agriculture. Alors ça, est-ce que c'est pas problématique pour la mobilisation autour de cette question-là ?
Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est agrégé dans plein de catégories différentes. Il y a l'agriculture, mais ensuite, tout ce qui est transport, c'est dans le transport. Tout ce qui est agroalimentaire, c'est dans l'industrie. Distribution, grande surface, je pense que c'est dans l'industrie, je suis pas sûre. Mais voilà, ouais, c'est effectivement agrégé dans plein de catégories. Ouais.
Et du coup, quelles sont concrètement les actions menées par le réseau Action Climat autour de ces enjeux ?
Alors, on travaille à différents niveaux. On a, par exemple, fait un assez intéressant travail avec l'enseignement agricole. Donc là, c'est plutôt la branche constructive de notre travail, où on a fabriqué un outil pédagogique pour les enseignants de l'enseignement agricole, pour qu'ils puissent enseigner le climat dans les lycées agricoles, notamment, mais aussi voilà, dans tout l'enseignement agricole. Donc ça, c'est assez intéressant. Après, on dénonce les fausses solutions aussi, donc là c'est peut-être une partie un peu plus plaidoyer, les fausses solutions comme le programme 4 pour 1000 qui est un programme de recherche mais aussi de réflexion sur sur la séquestration du carbone dans les sols qui risque de dédouaner le secteur agricole et agro-industriel de véritablement réduire ses émissions directes de gaz à effet de serre ou les agrocarburants, les OGM qui sont souvent avancés comme étant soi-disant une solution, mais même quand on rentre sans aller très loin on se rend très vite compte que c'est pas du tout une solution. Voilà. Et après, on essaye de suivre les politiques agricoles qui sont mises en place pour tenter de pousser pour que on mette en place une réelle aide au changement de notre modèle agricole pour aller vers un modèle agricole qui soit réellement écologique.
Comment la COP21, elle, traite-t-elle des questions d'alimentation ? Est-ce que c'est un sujet ou c'est un non-sujet ?
Alors, on parle plutôt d'agriculture et d'usage des sols. C'est un énorme sujet, notamment sur la façon de comptabiliser et la façon de fixer des objectifs sur ce secteur-là. Ça fait énormément discuter entre les pays et en fonction de leur patrimoine forestier et des tendances de croissance ou pas de leur surface forestière. Voilà, forcément, ça fait des intérêts très, très divers entre les pays sur ce point-là.
Parmi les actions du RAC, il y a aussi des publications à destination du grand public.
Effectivement, alors même si c'est une petite branche, parce que quand même notre priorité, c'est de changer les politiques pour qu'il y ait des mesures vraiment massives qui puissent être mises en place à l'échelle d'un pays. Bon, bah, on a quand même fait une publication à destination des structures relais qui pourraient la distribuer à du grand public pour donner des indications sur comment, via nos choix alimentaires et nos choix d'achat alimentaire, on peut avoir un impact sur la balance gaz à effet de serre liée à notre système agricole et alimentaire. D'une part, parce qu'il y a certains aliments qui émettent beaucoup plus de gaz à effet de serre dans leur production, par exemple la viande comparée aux légumes secs, mais il y a aussi certains types d'agriculture qu'on peut soutenir via nos achats qui émettent moins de gaz à effet de serre. Par exemple, la bio, pour citer la plus connue et la plus repérable en magasin, mais tout ce qui est agriculture paysanne dans sa globalité. En fait.
Et donc on en vient aux actions que peuvent mener chaque citoyen. Qu'est-ce que les citoyens peuvent concrètement faire du coup ?
Alors je dirais qu'il y a deux catégories de gestes pour faire que notre alimentation ait moins d'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. C'est d'une part choisir des aliments dont la production émet moins de gaz à effet de serre. C'est le cas par exemple de la viande comparée aux légumes secs. La viande, effectivement, tout le système productif de la viande émet beaucoup de gaz à effet de serre, notamment la viande de ruminants. Mais il y a aussi la deuxième grande catégorie, c'est les types d'agriculture qu'on peut soutenir, qu'on peut choisir via nos actes d'achat, comme par exemple l'agriculture biologique ou encore les AOC. Ça, ce sont des choses qu'on peut voir sur les étiquettes et c'est facile, mais aussi dans sa globalité toute l'agriculture paysanne dont le système émet moins de gaz à effet de serre, parce que ce sont souvent des agricultures qui sont plus autonomes, qui cherchent, quand ce sont des élevages, à produire eux-mêmes l'alimentation pour les animaux, qui les mettent beaucoup plus majoritairement à l'herbe pour ce qui est des ruminants. Ça émet moins de gaz à effet de serre et en plus ça permet de séquestrer du carbone dans les sols. C'est souvent aussi des agricultures, et a fortiori pour la bio, qui sont indépendants des intrants chimiques. Toute la production des produits chimiques émet des gaz à effet de serre. Voilà, donc c'est vraiment les deux grandes catégories de gestes qui permettent de baisser nos émissions de gaz à effet de serre.
Et quelles sont les réglementations qui sont en cours? Est-ce qu'au niveau des politiques publiques, quelles sont les grandes orientations aujourd'hui?
Alors pour l'instant, malheureusement, on est clairement dans un système politique qui continue d'encourager l'agriculture conventionnelle. En fait, aujourd'hui, c'est principalement régi par les aides de la PAC, hein, quand même. Donc ça se fait beaucoup à l'échelle européenne. Les négociations, on vient d'avoir une nouvelle PAC qui a un peu verdi par rapport à la précédente, mais on est encore bien loin du niveau des enjeux, en fait. Il va y avoir dès l'année prochaine le début des discussions pour la PAC suivante, qui va durer plusieurs années, où là va vraiment falloir essayer de faire un changement radical plutôt que de faire des tout petits pas à chaque nouvelle PAC. Après, à l'échelle nationale, on peut aussi faire des choix de soutien. Alors, il y a beaucoup de discours qui vont dans le bon sens de soutien à l'agroécologie, mais pour l'instant, concrètement, les soutiens ne sont pas massifs. Enfin, voilà, si on ne parle que du développement de la bio, j'ai pas bien les chiffres en tête, mais on est très loin des objectifs qui avaient été fixés, et alors que souvent il y a des beaux discours dans ce sens-là, pour l'instant ça suit pas, ça reste la croix et la bannière de s'installer en bio, de se convertir en bio, quoi.
Et justement, quels sont ces soutiens, les grands acteurs de l'alimentation qui prônent une alimentation durable, soutenable?
Les grands acteurs de la société civile, oui, par exemple la FNAB ou la FNCIVAM ou ce genre d'acteurs. C'est vrai que donc aujourd'hui, face à ces politiques publiques qui sont carencées par rapport au soutien à une agriculture réellement écologique, il y a tout un tas d'acteurs de la société civile, effectivement, comme la Fédération nationale des CIVAM, enfin tous les CIVAM qui sont dans les territoires, les RAD, Réseau Agriculture Durable, les groupements d'agriculteurs biologiques, la Confédération Paysanne, voilà, il y a tout un tas d'acteurs dans les territoires qui se démènent, qui font tout un tas de choses et qui mettent en place déjà des alternatives par eux-mêmes. Et ce qui est important à souligner, c'est que en général, ce sont ce type d'agriculteurs qui ont mis en place ce type d'agriculture qui ont été le moins impactés par les toutes récentes crises agricoles. Et ça, on l'entend pas beaucoup dans les médias principaux.
Est-ce que toi, en tant que citoyenne, qu'est-ce que t'attends de la COP21?
Sur la COP, je sèche toujours un peu. Parce que, en fait, oui, ce qu'on a tendance à dire au réseau Action Climat, c'est que la COP, c'est important. Il va y avoir un accord qui va en sortir, qu'on espère le plus ambitieux possible, mais qui va s'appliquer à partir de 2020, si tout va bien. Or, c'est entre 2015 et 2020 qu'il va falloir mettre en place les actions les plus importantes pour vraiment infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est dans les 5 prochaines années qu'il faut mettre en place le maximum d'actions dans tous les secteurs possibles, et l'agriculture en fait partie.
Merci beaucoup, Cyrielle.
S'il vous amoche, vous les amochez. S'il vous tue, vous vous relevez.
Microclimat.
Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans le cadre de la semaine Microclimat. Notre émission traite de l'alimentation et de son impact sur le climat. Au village des alternatives à Montreuil, nous avons eu l'occasion de rencontrer Mickaël, paysan et membre de la Confédération Paysanne. Nous avons pu discuter avec lui des différentes luttes en cours visant à soutenir la pratique d'une agriculture respectueuse du climat et de son environnement.
Première question, pouvez-vous nous décrire déjà votre syndicat et les actions menées par la Confédération Paysanne ?
Écoute, en deux mots, décrire notre syndicat, ce serait compliqué. Que dire ? Sans doute que nous sommes un syndicat qui est davantage pour la défense des petits et moyens paysans de France. Et puis un syndicat qui porte aussi un modèle d'agriculture, un projet d'agriculture qui est tout à fait cohérent avec les revendications et les nécessités d'avenir des problématiques concernant le climat par exemple.
Concrètement, quelles sont les actions que vous menez ou les combats que vous revendiquez en lien avec cette COP ?
Dans les combats pour lesquels on est le plus connu ces dernières années, c'est certainement celui des 1000 vaches. C'est cette ferme-usine dans la région d'Amiens, en Picardie très précisément, sur lesquelles on a déjà été plusieurs fois perpétrer des actions et un démontage en particulier, pour lequel certains de nos militants se sont trouvés devant des tribunaux et ont écopé de quelques mois de prison avec sursis, qui ont été mués en amende avec sursis quelques mois après en appel. Alors la ferme-usine, on peut se demander, 1000 vaches, qu'est-ce que ça vient faire avec le climat ? En fait, c'est tout simplement un modèle d'agriculture qui est très néfaste pour le climat. Parce que pour que l'agriculture soit cohérente avec le climat, pour qu'elle soit vertueuse vis-à-vis du climat, il ne faut justement pas que ce soit une agriculture ou un élevage où on apporte toute l'alimentation aux animaux et où on produit des quantités monumentales de lait, par exemple, et à partir desquelles on va nourrir des populations lointaines avec un produit bas de gamme. La cohérence à l'agriculture avec le climat, c'est tout autre chose. Ce sont tout simplement des vaches qui vivent et qui s'alimentent avec des pâturages et des productions, si possible, qui sont bien cohérentes avec la demande des populations autour des lieux de production ou au moins dans les pays de production.
Et on en est où exactement de ce projet 1000 vaches, concrètement, du combat ?
Écoute, alors le projet des 1000 vaches, c'était 500 vaches qui avaient fini par être introduites par le propriétaire qui était un industriel du nord de la France. Il avait réussi à obtenir des autorisations en dernière minute, alors que même le ministre de l'Agriculture disait que ce modèle-là n'était pas le sien. Mais en tout cas, les autorités administratives local, donc qui représente l'État dans la région, lui avait autorisé les 500 premières vaches. Derrière quoi, à la première collecte de lait, nous avions installé un blocage, tout le monde doit s'en souvenir. Évidemment, derrière ce blocage, on sait que ce lait, il a du mal à le vendre en France, puisque personne, aucun industriel, aucun distributeur ne veut racheter ce lait, donc il a depuis un an réussi à le commercialiser plutôt vers la Belgique. Là, plus récemment, il y a quelques mois, aux 500 vaches qu'il avait déjà, il en a rajouté 300 autres, ou quasiment 300 autres, sans autorisation officielle non plus. Nous avons porté un recours avec nous, Confédération Paysanne, avec évidemment Novicen, qui est une association à proximité, une association de citoyens très motivés à proximité du site de production de cette ferme-usine. Ces 300 vaches, il a réussi à les introduire et maintenant il est précisément en train d'obtenir sans doute des autorisations de validation de ces animaux-là pour continuer à produire désormais avec 800 vaches, parce que les autorités administratives ne lui ont pas imposé ce qu'avait promis le ministère de l'Agriculture. C'est qu'à lui comme aux autres, sans autorisation, on ne peut pas accorder de présence de bovins. L'agriculture est quand même très réglementée. Et pour déplacer les animaux, il faut des autorisations. Lorsqu'on est un petit paysan de quelques coins de France que ce soit, et qu'il nous manque un bout d'identification sur nos animaux, on est rapidement et largement pénalisé, souvent en disproportion. Là, effectivement, cet industriel va imposer aux autorités administratives la présence d'un surplus de vaches de 500 à 800, alors que toutes les règles de cette République devraient l'en empêcher. On en est à peu près là aujourd'hui. Très précisément, il y a une enquête publique qui a été ouverte et qui pourrait aboutir à une autorisation par la préfecture de validation de ces vaches-là. Si la population, si les paysans et les citoyens français ne se mobilisent pas pour ne pas laisser faire ce qui arrive là.
Et quelles sont vos prochaines actions justement pour tenter de mobiliser les citoyens ou pour contrer ce projet ?
On est mobilisé sur les 1000 vaches, mais aussi on est mobilisé sur d'autres entreprises de ce type-là. Mais aujourd'hui, très précisément, ce 5 ou 6 décembre, ici à Paris, je voudrais juste évoquer le cas de Notre-Dame-des-Landes que beaucoup de Français doivent connaître ou ont au moins entendu parler, puisque c'est une surface de quelques 2-3 000 hectares sur lequel il y a un projet d'aéroport pour la région de Nantes qui date d'il y a 60 ans et qui a été remis au goût du jour ces toutes dernières années. Donc il y a une forte opposition à ce projet d'aéroport à la Confédération paysanne et dans la société entière, dans la région de Nantes bien précisément également. La Confédération paysanne s'y oppose bien sûr parce que c'est sur ce territoire-là, ce sont encore des terres agricoles qui sont accaparées par de grands projets et que tout le monde estime largement inutiles. Il n'a pas été démontré qu'il faille un nouvel aéroport à Nantes jusqu'à nouvel ordre. Nantes aujourd'hui, Notre-Dame-des-Landes, on veut en parler parce que juste ces derniers jours, et dans cette ambiance d'état d'urgence un peu particulier que connaît ce pays, ces derniers jours est arrivé une convocation au tribunal pour les 2-3 paysans qui restaient encore sur ce territoire-là, qui résistaient et qui continuaient à produire comme ils ont toujours produit sur ces terres-là. Voilà, alors Notre-Dame-des-Landes, on veut y penser très particulièrement puisque c'est jeudi que cette affaire-là passera à Nantes devant le tribunal administratif et qu'il faut que les Français sachent qu'au moment où il y a un état d'urgence dans ce pays, ben, ma foi, le gouvernement en profite également pour régler ces lieux de résistance de la citoyenneté, de la jeunesse et du monde paysan également.
Ok, ben le message est passé, merci beaucoup. We'll be right back.
S'ils vous amochent, vous les amochez. S'ils vous tuent, vous vous relevez.
Microclimat.
Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans le cadre de la semaine Microclimat. Notre émission traite de l'alimentation et de son impact sur le climat. La première partie de l'émission concernait la compréhension et la défense des principes d'une alimentation durable. Nous sommes aussi allés à Pantin, à la rencontre du marché sur l'eau, association qui vise à construire une relation directe, en circuit court donc, entre les consommateurs du nord-est parisien et les exploitants agricoles d'Île-de-France. L'association compte 2 salariés qui sont appuyés par ses membres le jour du marché, le samedi matin, où 3 stands sont installés le long du canal de l'Ourcq, à Aulnay-sous-Bois, Pantin et à Paris, à Stalingrad. Il est 10h du matin, un samedi du mois de novembre 2015, sur les rives du canal à Pantin, les bénévoles sont en train de monter le stand.
Alors Nicolas, qu'est-ce que tu es en train de faire ?
Alors, moi, je suis en train d'aider pour préparer le stand, marché sur l'eau.
D'accord.
Et plus précisément, donc il y a plusieurs sortes de paniers, des petits paniers, des paniers moyens, des grands paniers.
Donc toi, t'es au stand panier, quoi.
Voilà, stand panier. Et j'essaye de préparer un maximum les paniers à l'avance pour que quand les gens viendront chercher soit leur petit panier, soit leur grand panier, soit leur moyen panier, ils puissent rapidement savoir ce que contient ce panier, combien de carottes, combien de... d'épinards ou de salade, et puis que ça circule le plus possible. Donc du coup, on installe un petit peu chaque panier. Et moi, je vais peser les épinards.
D'accord. Donc là, sur le aujourd'hui, c'est quoi la composition du panier ?
Alors, par exemple, le panier moyen, on a 700 grammes d'épinards, on a 800 grammes de carottes en vrac, on a 6 œufs extra frais, on a 800 grammes de panais, 1 kg de pommes de terre, 700 g de poireaux et une salade. Ça, c'est le poignet moyen. Alors, c'est une association. On paye une cotisation qui est modeste, je crois, de 5 euros juste pour adhérer à l'association. Et ensuite, on s'inscrit pour avoir accès à 10 paniers. Voilà, donc, pendant 10 semaines, on va venir chercher nos fruits et légumes, et le principe c'est que ce sont des fruits et légumes produits localement, donc ça évite évidemment, ça limite les transports, ça aide l'agriculture locale, et puis évidemment tout ça est issu d'une agriculture raisonnée, donc c'est un ensemble de choses qui fait qu'on a envie de venir prendre nos légumes et nos fruits au marché sur l'eau toutes les semaines. Voilà.
Donc Claudia, est-ce que tu peux m'expliquer un peu le fonctionnement du marché sur l'eau ?
Alors l'objectif de marché sur l'eau, c'est de maintenir la production locale. Donc nos producteurs, ils sont à moins de 100 km de la région. L'objectif étant pas forcément de gagner de l'argent puisqu'on est une association, mais surtout de pouvoir donner une sortie de vente aux producteurs en leur évitant les intermédiaires des grandes surfaces. Voilà.
Tu sais cuisiner, tous les légumes.
Ça c'est vrai que c'est la première grande difficulté des produits du coup locaux. Et ce qui veut dire locaux veut dire contrainte. Effectivement, on ne va pas acheter d'ananas ni de tomates en hiver. Donc, j'ai appris à cuisiner. Et pour le coup, je mange vraiment local. Et ce qui est intéressant, c'est que... maintenant, grâce à Internet, on a accès à des sites qui nous donnent des millions de recettes pour un même légume. Mais en plus, je pense que l'intérêt de manger local, c'est que du coup, les goûts varient vraiment en fonction de l'année. C'est-à-dire qu'en hiver, on mange beaucoup de choux, des panais, enfin des légumes à racines. Et quand arrive l'été, on est ravis. Parce que là, on attaque sur autre chose. Et puis, à la fin de l'été, on en a marre des tomates. Et puis, on est ravis de voir arriver les choux et les légumes à racines, ainsi que les pommes.
Alors, on est passé au stand des paniers. Là, il y a le vrac à côté de nous aussi.
Oui. Alors, le vrac, il existe parce que le panier existe. C'est-à-dire que l'intérêt d'avoir des paniers, c'est de, comment on dit, de promettre un revenu et un écoulement des produits en surproduction des producteurs. Et grâce à ça, ils nous permettent d'accéder à d'autres produits et qui sont vendus en vrac. Voilà. Ils sont vendus en vrac au prix producteur. Voilà.
Et ce matin, on a quoi là sur le vrac ?
Ce matin, aujourd'hui, je trouve qu'on est très très fourni. Les producteurs ont été très généreux, contrairement à la semaine dernière. Donc alors, déjà, on a, je crois, 4 espèces de pommes différentes. Donc 3 goûts différents, il va y avoir 4 goûts différents entre les sucrés, les acidulés. On a les retours des endives, on a des belles bottes de carottes, les derniers radis, c'est les poireaux, bah, les légumes d'hiver, les bonnavets boules d'or. Qu'est-ce qu'on a encore aujourd'hui de surprenant? Peut-être qu'au fond, je ne sais pas si je crois voir un topinambour ou pas, ou si c'est... voilà.
D'accord. Et il y a des produits laitiers aussi.
Ah oui, ça aussi, oui, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais effectivement, le fait d'avoir, oui, parce que c'est pas uniquement des légumes sur marché sur l'eau, on a aussi accès à différents fromages. Alors là, on a du fromage de chèvre, qu'on n'a pas tout le temps, puisque c'est pareil, on suit vraiment le rythme chronobiologique de la petite bestiole. Donc là, aujourd'hui, on a de la chèvre, on a du fromage de brie, puisqu'on est fourni par les producteurs de la brie. On a poulet, on a yaourt, et tous les dérivés du lait, voilà. Ah, et puis aussi, on a un truc en plus, c'est qu'on a la transformation des produits pas vendus, c'est-à-dire les pommes, jus de pommes, des soupes, voilà, les différentes soupes, quand les légumes n'ont pas été vendus, ils sont recyclés en soupe.
Et il y a même de la bière, je crois.
Exact, mais ça, chut, il ne faut pas le dire.
Merci. Et une dernière question en tant que citoyenne. Donc là, la COP21 va bientôt commencer. Je ne sais pas si c'est un sujet qui te concerne.
C'est un sujet qui me concerne. Déjà, on va dire qu'on est souvent très mobilisé en ce qui concerne les mouvements sociaux qui tournent autour du climat. Deux, je trouve que la COP21, c'est surtout une grosse blague. Hein. Il n'y a que des gros industriels et puis les petites assos, les producteurs, etc. ne sont pas conviés parce que voilà. En plus, ils ferment toute possibilité de manifestation, donc il restera que celle de Montreuil le week-end prochain. Il y a une grosse problématique déjà, c'est les subventions. Donc comme on subventionne toujours que les gros producteurs qui sèment des engrais, des produits chimiques un peu partout. Donc il faudrait peut-être réfléchir à ça aussi. Enfin, il y a plein de questions autour de l'agriculture qui sont à débattre.
C'est un peu spécial, hein, les betteraves cuits au feu de bois, là.
Ouais.
Hein,
ouais.
Alors, t'aimes bien, toi?
Moi, j'aime bien. Un jus de poire, ok.
Ça, c'est compté.
Jus de poire, une soupe.
Stéphane, t'es venu ce matin donner un coup de main sur le marché sur l'eau?
Oui, je suis bénévole, membre de l'association et bénévole.
D'accord, tu viens souvent?
On vient souvent à brûle pour point, comme ça, quand il y a besoin d'un coup de main, ou quand on voit qu'il n'y a personne pour aider, quoi. On est là souvent, on participe aussi aux animations qui sont faites pour faire connaître l'association dans les différents salons des associations ou les différentes manifestations en rapport avec l'environnement.
D'accord. Et ce matin, en quoi a consisté ton rôle?
Alors moi ce matin j'ai déchargé les camions, j'ai installé les stands, j'ai préparé le tableau sur lequel sont écrits les compositions des paniers, parce que les gens sont autonomes dans l'association, donc ils vont regarder sur le tableau en fonction des paniers auxquels ils ont adhéré, qu'est-ce qu'ils doivent mettre dedans, et ils pèsent eux-mêmes, parce qu'il y a des balances à leur disposition.
Est-ce que tu peux me présenter le fonctionnement de l'association?
En fait l'association elle soutient une vingtaine d'agriculteurs. On n'est pas une AMAP, on est plutôt sur un modèle coopératif. C'est-à-dire que les agriculteurs qui rentrent dans l'association, qui respectent la charte et les conditions de qualité de produit, ensuite l'association elle a pour but de les traiter équitablement. C'est-à-dire que les revenus soient redistribués équitablement. C'est pour ça qu'il y a ce système de paniers et de vrac en même temps. En fait, les paniers... Ça permet de répartir les productions, les différentes personnes. Et le vrac, ça permet de compléter les paniers et aussi compléter les revenus. Donc en fait, il y a toujours un va-et-vient entre les deux. C'est pour ça qu'on accepte des adhérents du vrac, pour les gens qui sont vraiment embêtés avec ce système de panier parce qu'ils peuvent pas venir les chercher. Mais lors des adhésions, on insiste bien sur le fait que les militants et adhérents de l'association doivent plutôt prendre des paniers. Voilà. Même si c'est pas une obligation formelle dans les statuts.
La charte de qualité dont tu parlais auprès des agriculteurs, ça consiste en quoi ?
Christelle, elle va prendre des gens qui sont soit en biologique, soit en conversion, soit en lutte intégrée. C'est-à-dire qu'en gros, des gens qui vont vers le biologique. Sachant que le biologique, c'est compliqué, puisque ça nécessite des transformations assez importantes, et notamment la nécessité de reconstituer un écosystème avec des plantes et des insectes répulsifs. Voilà, donc c'est très long. Donc ça ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Mais des producteurs qui utiliseraient beaucoup trop d'intrants ou de pesticides, tout ça, ne pourraient pas être dans cette association. Le but, c'est quand même d'avoir le maximum de gens qui travaillent sans produits phytosanitaires. Le marché sur l'eau, il est voué à augmenter ses adhérents, puisque un des buts de l'association, c'est de diminuer les transports polluants. Donc pour nous, comme le dit son intitulé, c'est d'être alimenté par le biais du canal, donc d'avoir à terme un bateau qui fonctionne avec des énergies renouvelables. Mais il nous faut pas mal d'adhérents pour pouvoir pérenniser ce projet et salarier quelqu'un. Donc pour avoir des adhérents, bah, la seule solution, c'est de se faire connaître et c'est de participer à des manifestations en rapport avec l'environnement.
Aujourd'hui, il y a le bateau, il vient une fois par mois à peu près, hein, c'est ça ?
À peu près, ouais. Aujourd'hui, il n'a pas pu venir parce que la personne qui s'occupait de ça avait des problèmes de santé. Mais il aurait dû venir aujourd'hui. Donc ouais. On a recours à des camions. Mais de toute façon, les déplacements sont quand même limités puisque notre point est à Clé-Souilly et les agriculteurs ramènent leurs produits à Clé-Souilly. Donc il n'y a pas de va-et-vient. Ce n'est pas du tout un système comme par exemple la ruche qui dit oui, qui met les agriculteurs en concurrence et en plus qui... multiplie quand même les transports, même si c'est sur des courtes distances.
D'accord, donc là, si je comprends bien, il y a un point de ralliement des produits agricoles à Clé-Souilly. Ensuite, ça vient par camion ou par bateau.
Par bateau, le mieux, hein, c'est quand même que ce soit par bateau, mais on a besoin que notre association se développe pour pérenniser ce projet. Notamment qu'on ait aussi beaucoup d'adhérents au panier.
D'accord.
C'est eux qui maintiennent le revenu.
Et aujourd'hui, il y a trois points de vente.
Oui, il y a trois points de vente. Il y a un point de vente à Stalingrad, à Paris, un point de vente ici qui est sur le quai de l'Ourcq.
À Pantin,
et il y a un point de vente à Sevran. Les points de vente, ça dépend aussi de la volonté des bénévoles de s'impliquer, puisque c'est quand même une association qui est avec trois salariés, mais c'est quand même une association qui est dans un sens autogérée, quoi. C'est-à-dire que c'est les gens qui font ce qu'ils veulent avec leur association.
Oui, aujourd'hui, là, il y a combien de bénévoles ce matin ?
7 bénévoles.
C'est le nombre qu'il faut pour monter le stand. Là. On a vu qu'il y avait pas mal de choses à faire en arrivant le matin.
Oui, c'est le nombre qu'il faut pour monter le stand, à peu près. Ouais. Donc, sachant qu'il y a un roulement, les gens peuvent s'inscrire à différents horaires.
Ça va être le début là, de la COP21 ce week-end, avec un objectif de trouver un accord international sur la limitation du réchauffement climatique. Qu'est-ce que... toi, en tant que citoyen, tu en penses ou tu en espères ?
Moi, j'en espère pas grand-chose, parce que je pense que de toute façon, c'est pas les gens qui se réunissent là-bas qui pourront faire quoi que ce soit, parce qu'eux, ils défendent leurs intérêts, et ils défendent les intérêts de leur classe. Voilà. Donc ils défendent les intérêts de leur classe, ils défendent pas mes intérêts à moi. Moi, mes intérêts à moi, c'est pas les mêmes que les leurs. Donc moi, je pense que ça sert pas à grand-chose. De toute façon, d'un point de vue scientifique, pas mal d'experts au niveau mondial disent qu'il faudrait que le réchauffement se limite à 1,5 degré. Et là, ils sont pas du tout partis pour ça. Donc je pense que c'est pas très sérieux. Je pense qu'on limite nos libertés publiques. En même temps, on autorise des marchés de Noël et des événements comme ça, alors qu'on n'a pas le droit de manifester. Moi, je suis enseignant et on a eu des manifestations qu'on avait prévues dans mon département qui ont été interdites. Donc, je trouve pas ça sérieux, mais à la limite, ça m'étonne pas de nos représentants politiques. Ils ne font que perpétrer ce qui s'est passé depuis les débuts de la Troisième République, c'est-à-dire qu'ils représentent leur classe.
Sur le changement climatique, l'initiative doit venir plutôt des citoyens, donc.
Je pense que c'est des initiatives comme la nôtre. et comme d'autres, hein, comme ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes ou dans pas mal d'endroits en France où on proteste contre des projets inutiles qui, de toute façon, feront réfléchir la politique de ces gens-là. Tout ce qu'on a obtenu au cours du XXe siècle n'a été obtenu que par des luttes. C'est absolument pas la représentation politique qui nous a permis d'obtenir les avantages sociaux qu'on a obtenus. Jamais. C'est toujours à la marge et c'est toujours grâce à des luttes. Donc cette lutte pour un changement de modèle économique doit être à l'initiative des citoyens. Elle ne peut pas être à l'initiative du patronat et des représentants de la classe politique, des élus qui, je le répète, représentent une certaine classe de la société, c'est-à-dire les gens qui dirigent les entreprises et les institutions.
Les blettes que j'ai pas vu par contre.
Voilà, c'est épinards.
Non, c'est que les blettes, mais regardez.
Il y a des blettes ou des épinards?
Non, on a que des épinards, on a 4.
Donc c'est 850 grammes d'épinards.
C'est les épinards, ouais.
On a des compotes.
Bonjour Françoise.
Bonjour. Bon, moi, ça fait très longtemps que je mange bio, que j'achète bio. Mais ce que je trouve vraiment bien ici, c'est que les produits sont extrêmement frais. Et en plus, c'est assez agréable aussi d'être ici et de rencontrer d'autres gens qui sont adhérents au marché sur l'eau et qui aiment aussi ces bons produits, quoi. C'est assez convivial aussi.
Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a là comme produit là sur le marché?
On commence à avoir le stand de l'hiver avec toutes les racines pour faire des bonnes soupes. Avec des super épinards qui sont excellents, poireaux, choux-fleurs, mâches, et puis bien sûr les pommes et les poires. À moi ce matin, j'achète des pommes de terre, des endives, du radis noir, parce que j'adore ça, avec un petit peu de gommasio dessus, des petites tranches et du gommasio dessus, c'est excellent. Et puis je pense que je vais acheter du fromage aussi, parce que c'est du brie qui est excellent.
Alors ce week-end commence la COP 21.
Ouais.
Est-ce que tu as un avis sur ce sommet?
Ouais, j'ai un avis. On n'est pas tout à fait dans les clous pour atteindre les 2 degrés seulement de réchauffement. Donc ça va être un peu difficile. Puis surtout, il suffit pas de déclarer, de prendre un certain nombre d'engagements. Il faut encore qu'on puisse mettre en place des systèmes de contrôle pour être sûr que les États tiennent leurs engagements. Donc voilà, plus... moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que tout l'aspect citoyen de cette COP 21, compte tenu des événements et des restrictions de manifestations, elle va être difficilement au rendez-vous. Et je pense que, pour autant, c'est sans doute le mouvement citoyen dans son ensemble qui peut pousser un peu les choses, quoi.
Bonjour Pierre. Comment t'as découvert le marché sur l'eau?
Alors, j'avoue que j'ai découvert un peu par hasard, en passant, en fait.
D'accord, en passant sur le canal là.
Sur le canal, ouais. J'ai vu et j'ai voulu acheter des fruits et légumes. On m'a dit, il faut être adhérent. J'ai dit, j'adhère. Voilà. Ben moi, je suis déjà très investi effectivement dans tout ce qui est écologie, circuit court, etc. Pour l'instant, je faisais beaucoup mes courses à Biocop, déjà, ouais. Le long du canal là-bas. Et donc, tout ce qui est légumes, maintenant, ça sera ici. J'ai découvert. Et en fait, du coup, j'ai interrogé un peu Christelle pour savoir ce qu'elle se faisait. Et ça m'intéresse à plusieurs titres. Parce que moi-même, j'ai une structure et on veut développer ça aussi bien à Pantin qu'éventuellement en Afrique. Voilà, j'ai des vues.
D'accord.
De collaboration. Voilà.
Ok. Ouais, tu peux nous décrire ton projet?
Oui, bien sûr. Ben, moi, je suis en fait chorégraphe,
ouais.
Implanté à Pantin et je suis donc directeur d'un festival depuis 3 ans, dont la thématique est la citoyenneté à travers l'histoire coloniale. Mais on ne s'arrête pas que à ça, puisque de toute façon, notre idée, c'est de dire qu'effectivement, l'Occident s'est enrichi avec cette histoire-là et que ça continue. Et que maintenant, le système libéral n'est que la continuation de ce système qui a été enclenché il y a 500 ans. Donc, on est un peu en bataille contre l'agroalimentaire d'une manière générale, parce que vu les désastres que ça fait aussi bien en France que dans le monde, parce que je vis aussi une partie de l'année au Sénégal.
D'accord.
Donc, je vois 6 mois ici, 6 mois au Sénégal, et donc je vois la catastrophe au niveau des paysans en Afrique, c'est juste... Juste envie de se tirer une balle dans la tête parce que c'est ils sont tous dépendants de Monsanto. Et c'est hallucinant.
Sur les semences, sur les...
Alors, sur les semences, sur les produits chimiques, sur qu'ils utilisent sans protection, et acheter chaque année les semences, etc., etc. Ils ne s'en sortent même pas parce que quand ils vont vendre leurs produits sur le marché, c'est les produits qui viennent de Hollande et de France qui sont sur le marché. Donc ils n'arrivent même pas à écouler leurs produits, c'est juste la catastrophe. Donc il faut vraiment qu'on sorte de ce système. Et donc c'est une de mes actions que j'ai intégrées dans la démarche du festival en fait. Donc on projette des films, en fait le festival on projette des films. Là on a projeté beaucoup de films, un film sur Pierre Rabhi, Colin Serrault, etc. On est aussi bien sûr l'économique, le politique, que l'artistique. Voilà, on se bat vraiment sur tous les fronts. Et c'est maintenant on va travailler aussi sur le sucre, l'histoire du sucre depuis le 16e siècle. Au niveau économique, politique, historique, aussi au niveau de la santé. Le sucre est devenu quasiment indispensable aujourd'hui, pourtant on peut s'en passer, enfin le sucre ajouté j'entends, et comment l'agroalimentaire s'est emparé de cette matière, le sucre, et comment ça devient un truc qui empoisonne nos vies. Donc ce festival se fait à Paris.
Il s'appelle comment ?
Niofar. Il a lieu en février à Paris, et après on part en avril, mai, au Sénégal, pour faire le même festival.
Ok. Là, ce week-end, il y a la COP21 qui commence. Est-ce que toi, en tant que citoyen, puis avec ce double regard, on va dire, est-ce que tu as un avis sur ça ?
Oui, j'ai un avis. Parce que pour moi, c'est une grosse mascarade. Parce que ceux qui financent la COP21, c'est ceux-là même qui foutent tout le monde dans la mer. C'est les grands lobbies qui financent la COP21. Donc, il faut quand même y être, en faire entendre les voix, mais pour moi, c'est un gros pipeau.
Le développement de la production en circuit court en Île-de-France n'est possible que dans le cadre d'un maintien des terres agricoles franciliennes. Ces terres sont plus que jamais convoitées par les aménageurs et les promoteurs, décidés à bâtir toujours davantage malgré l'étendue déjà considérable de la couche de bitume qui enserre et étouffe l'Île-de-France. Nous avons rencontré le collectif qui se bat contre l'urbanisation du triangle de Gonesse et le projet Europa City, qui vise à construire d'ici 2020-2025 un gigantesque centre commercial et de loisirs à la place de terres agricoles extrêmement fertiles et à proximité immédiate de Paris. La lutte contre ce grand projet inutile nécessite plus que jamais la vigilance et la mobilisation des citoyens. Donc nous sommes au village mondial des alternatives avec le collectif contre l'aménagement du triangle de Gonesse. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la situation et votre action que vous menez?
Alors la situation, bon, je pense qu'un certain nombre de vos auditeurs connaissent déjà le projet de centre commercial qui est porté par le groupe Auchan. C'est le centre commercial Europa City qui va l'implanter sur le triangle de Gonesse. C'est la fuite en avant de la grande distribution et qui veut faire un méga centre commercial à la fois commerce, 500 boutiques, mais aussi loisirs culturels, soi-disant, dont la grande distribution occupe le domaine culturel. Et la caricature, c'est pistes de ski, parc à neige, à mettre sur le triangle de Gonesse en pleine de France. Donc, sur ce projet-là, depuis, on l'a appris en 2010, au moment du débat public sur le Grand Paris, et dont ils ont obtenu la création d'une gare du Grand Paris, de la ligne 17 Nord qui va à Roissy pour desservir le triangle de Gonesse, et donc qui ne servira pas aux habitants, puisque sur le triangle de Gonesse, il ne peut pas y avoir d'habitants, on est sur les pistes des avions, il ne peut pas y avoir de logement, ça peut être que de l'activité. Et donc Auchan a obtenu une gare du Grand Paris pour son projet. Et depuis 2010 qu'on a appris ce projet, les associations du Val-d'Oise et de Seine-Saint-Denis se sont regroupées pour faire échec à ce projet. Et on a quand même réussi aujourd'hui à ce qu'il y ait... Alors qu'au départ, on nous a dit qu'on était les seuls à s'opposer à ce projet, que tout le monde était d'accord. Là, on arrive au moment de l'élection régionale où il n'y a pas une seule liste qui défend le projet Europa City. Il y en a deux, en particulier Europe Écologie Les Verts et Front de Gauche, qui s'opposent à ce projet, y compris même il y a Debout la République qui s'oppose au projet Europa City. Le PS et les Républicains, ils sont un peu embêtés parce que au niveau de Seine-Saint-Denis, il n'y a aucun élu PS ou Républicain qui soutient ce projet.
D'accord, alors qu'ils ont voté pour dans une première version.
Alors, ils ont voté, ce qui a été voté, le projet Europa City n'a jamais été voté. au conseil régional. Nulle part, il n'y a aucun document du conseil régional où EuropaCity a été inscrit. Chaque fois qu'il y en a qui ont tenté d'écrire EuropaCity dans des documents d'aménagement, ça a été refusé. Il y a eu des amendements d'opposition, ça a été refusé. Il y en a qui auraient bien certainement aimé. Mais aujourd'hui, on a tous les élus du 93, que ce soit de gauche ou de droite, qui sont opposés à ce projet-là. Il n'y a pas publiquement, il n'y a pas un élu du 93 qui défend le projet EuropaCity. Par contre, dans le Val d'Oise, on a le conseil départemental qui défend le projet EuropaCity, Républicain et PS, et le maire de Gonesse est un maire PS qui défend à fond le projet EuropaCity et qui dénie au 93, alors qu'on est à la limite des deux départements. Quand le 93, le conseil départemental s'est prononcé contre, le conseil départemental du Val d'Oise a voté une délibération favorable à EuropaCity, bien sûr, mais déniant le droit au département du 93 de se prononcer sur ce projet qui était dans la Val d'Oise. On voit la conception d'aménagement de certains élus où les frontières départementales, c'est des frontières où il faudrait...
Parce que le projet, là, il est 100% dans le Val d'Oise ?
Il est 100% dans le Val d'Oise, sur la commune de Gonesse. Il est 100% même sur la commune de Gonesse. Mais il est porté par le PA Plaine de France, qui est un établissement public d'aménagement de la Plaine de France, et qui a obtenu l'autorisation d'urbaniser au niveau du conseil régional, pas sur la base du projet EuropaCity, mais sur la base, ils avaient présenté en 2008 un projet de technopôle. Projet de technopôle qui leur avait permis d'obtenir en 2008 le vote du conseil régional pour urbaniser 475 hectares. Et donc nous, en 2010, on s'est constitué en opposition à EuropaCity. Ça a suscité des débats dans la poursuite de... puisque le schéma régional n'a pas été adopté en 2008. Il a été refusé par Sarkozy avec le Grand Paris. Il s'est servi du Grand Paris pour refuser le projet qui avait été voté en 2008. Et le deuxième vote qu'il y a eu en 2013, alors là, on n'a pas obtenu gain de cause. L'urbanisation n'a pas été supprimée, mais elle a été réduite à 300 hectares. Là, on est passé de 475 à 300. Et on espère, là, il va y avoir un débat public du 15 mars au 30 juin. Et on espère ce débat public faire échouer EuropaCity et la prochaine révision du ZRIF remettre la totalité du train de Gonesse en espace agricole.
D'accord. Aujourd'hui, donc, c'est essentiellement des activités agricoles qui sont présentes.
Aujourd'hui, c'est cultivé. Il y a 700 hectares qui sont cultivés. Donc là, dans les projets d'aménagement, c'est 300 hectares, donc 300 hectares urbanisables, dont 80 pour EuropaCity. Mais tout ce qu'il y a autour d'EuropaCity que l'établissement public d'aménagement voudrait mettre, il n'y a pas besoin, il y a des friches, des zones d'activité, ils peuvent très bien le mettre. Les hôtels qu'ils envisagent de faire ou les centres de formation, ça peut, il n'y a pas besoin d'urbaniser le triangle de Gonesse. Et ils disent qu'ils garderont 400 hectares de terres agricoles, mais bon, c'est réduire comme peau de chagrin quand même l'espace agricole, où on est dans les terres les plus riches d'Europe, des terres excellentes, et où on ne peut pas faire de la ville, parce que comme on est sous les pistes des avions, il ne peut pas y avoir de logement. Et c'est la difficulté. Il y a longtemps qu'ils seraient urbanisés, le triangle de Gonesse, qui est quand même relativement proche de Paris. S'ils avaient pu faire de la ville, du logement, activité, équipement, il y a longtemps qu'ils seraient urbanisés. La difficulté, c'est qu'on est, ben, c'est les conséquences de Roissy, hein, et les nuisances que subit la population des vols de Roissy.
Et aujourd'hui, ces activités agricoles, quelles sont-elles ?
Alors, c'est essentiellement... Il y a un peu de maraîchage de plein champ, mais très, très peu. Un peu de pépinière aussi, mais c'est essentiellement des céréaliers qui cultivent. C'est bien évidemment pas l'agriculture que l'on souhaite, mais tant que les espaces agricoles sont cultivés, on peut espérer qu'un jour ou l'autre on arrivera à faire évoluer le type d'agriculture. Alors que si on fait EuropaCity, bien évidemment l'agriculture c'est terminé.
Et aujourd'hui le combat il est juridique, quelles sont les formes un peu de résistance ?
Le combat pour l'instant il est essentiellement au niveau du débat d'idées. Puisqu'il y a le débat public, ils ont essayé que la Commission nationale, c'est un projet de maintenant qui est arrivé à 3 milliards d'euros d'investissement, donc c'est quand même un gros projet, et donc ils étaient obligés de soumettre leur projet à la Commission nationale du débat public. Ils ont essayé que la Commission nationale ne décide pas d'organiser le débat public au même moment où Auchan soumettait son dossier à la Commission nationale du débat public. Le PA qui est complice de Auchan a organisé, soi-disant, une concertation dite réglementaire pour la zone qui doit accueillir Europa City. Et pour argumenter qu'il n'y avait pas besoin d'organiser le débat public, puisqu'il y avait un établissement public qui organisait la concertation. Concertation totalement bidon, où toutes les réunions pour un projet de cette taille-là, toutes les réunions qu'a fait le PA, ils ne les ont faites que à Gonesse. Il n'y a pas eu de réunion à Aulnay, qui est juste à côté d'Europa City. Donc, c'est scandaleux la façon dont l'EPA a organisé la concertation. Bon, heureusement pour nous, la Commission nationale du débat public a décidé d'organiser et de nommer une commission de débat public. Et la date vient d'être... Alors, Auchan a eu du mal. Leur projet était tellement... Quand ils ont saisi la Commission nationale, ils étaient tellement peu préparés qu'ils ont demandé le report du débat public à deux reprises. Là, ils ont fini par déposer leur dossier pour que le débat puisse avoir lieu. Il aura lieu du 15 mars au 30 juin. Donc, on demande à vos auditeurs d'être à l'écoute.
Se mobiliser.
Il faudra qu'il y ait de la mobilisation parce que là, c'est l'occasion de faire échouer ce projet. On espère que Muliez, qui est à la tête de Auchan, comprendra que son projet n'est pas le bienvenu. Et décidera d'abandonner. S'il ne l'abandonne pas, ce sera dur. Et là, il faudra effectivement rentrer dans la voie juridique. Mais là, ce sera un peu plus compliqué dans la voie juridique. Donc, pour l'instant, on est dans la phase de concertation. Mais on aura un débat public passionnant, je pense, avec une commission particulière qui a déjà organisé un débat public en Plaine de France. Donc, qui connaît déjà quand même la Plaine de France, qui connaît le territoire, qui connaît les acteurs du territoire. Donc, c'est un débat. S'il y a des étudiants qui écoutent, qui sont en formation au niveau de l'aménagement du territoire, c'est un débat qu'il faudra suivre. Continuez à en parler. Merci.
S'ils vous amochent, vous les amochez. S'ils vous tuent, vous vous relevez.
Microclimat.